Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, vous avez sûrement vu passer ces images. De toute façon, on en parle abondamment dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. Ces gens qui sont anti-masques et qui ont fait le party en dansant dans un centre d'achat. Je pense que c'est à Rosemère. Puis là, vous êtes découragés, vous êtes dit, ben là, ils sont donc ben covidiots. Ben, quand on se compare, on se console. Imaginez que à New York, dans Queens, il y a des gens qui sont allés, ils étaient 80, ils se sont fait arrêter par la police parce qu'ils étaient dans un club échangiste. Quand la police est arrivée, il y avait plusieurs couples, puis il y a des photos, hein, on voit, il y a des lits dans le club échangiste. Il y avait plusieurs couples qui étaient là en train de s'échanger des fluides corporels en pleine pandémie. Je trouve cette histoire-là tellement drôle. Un club de swingers à Queens, qui a reçu la visite de la police en pleine pandémie. Il y a vraiment des covidios qui pensent pas, qui pensent juste à leur nombril, ou devrais-je dire une autre partie de leur anatomie. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand éclat de rire et un grand « ben voyons donc
». Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Tous les lundis, on commence la semaine en compagnie de Jean-Michel Dufaux. Jean-Michel, chroniqueur et animateur. Bonjour, comment vas-tu, Jean-Michel?
Ça va dans ce mois de novembre qui n'est pas toujours facile. Bon, ça va.
Bon, ça va bien aller, comme dirait l'autre. Écoute, Jean-Michel, je suis pas quelqu'un qui regarde régulièrement les téléréalités. Ça me passe 28 pieds au-dessus de la tête. Mais de temps en temps, il y a des choses qui se passent qui nous rappellent que ces téléréalités-là existent. Et là, c'est toute une partie de la province s'est exclamée parce qu'on a appris qu'il y a deux candidats d'occupation double qui ne savent pas, un, quelle est la capitale du Canada, et deux, quelle est la capitale du Québec. Alors, c'est Andréanne et Carl. C'est assez décourageant de penser que des gens qui sont aussi jeunes ont si peu de connaissances du milieu dans lequel ils vivent.
Exactement. Et là, je veux pas faire... tu sais, j'aime des fois les shows réalité, j'en regarde, j'en ai regardé. C'est pas du tout un jugement sur le format qu'on peut aimer ou pas aimer. Ça reste du divertissement. Des genres d'études sociologiques. Parfois, tu sais, je veux dire, c'est pas du tout genre, je dirais, à boulet rouge sur le format. Par contre, c'est quand même hallucinant d'entendre des trucs de base de gens d'ici qui ne savent pas du tout quelle est la capitale ni de la province ni du pays. Et des fois, je me dis, c'est quand même fou qu'on mette ces gens en avant, qu'on valorise ces gens. C'est vraiment comme, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, j'ai vraiment l'impression qu'au Québec, la culture, la connaissance, les études supérieures, c'est pas valorisé. Je veux pas simplifier.
Mais oui, tout à fait.
Ça me fait. Tu sais, on a vraiment un drôle de rapport avec les connaissances, avec les gens. On est.
La culture.
On se méfie des intellectuels. La culture. Et on se méfie des intellectuels. On se méfie des gens qui ont fait des études supérieures. Oh, les élites, les buveux de thé. Tu sais, on a un drôle de rapport avec ça. Mais en plus, je trouve qu'il y a une petite chose. Il y a comme une valorisation de l'insignifiance.
C'est bien dit.
Des gens qu'on mette à l'avant-scène, et que ça, c'est pas important. Bien écrit, c'est pas important. Bien parler, c'est pas important. Savoir de quoi on parle, c'est pas important. Du moment qu'il y a un petit cœur qui bat, qu'il y a des émotions, c'est ça qui est important. Je suis vraiment découragé. Et tu sais, quand tu penses que ces gens-là, c'est des gens d'ici qui votent, et tout ça, tu te dis, ben, c'est pour ça qu'après ça, on peut se retrouver dans des bourbiers, comme même aux États-Unis. L'éducation est importante, les connaissances sont importantes. Tu sais, je le dis souvent, mais tu sais, c'est un de mes arguments. Va dans la rue, demande aux gens quelles sont les trois branches du gouvernement, quelles sont les trois branches qui forment le gouvernement. Et les gens ne le sauront pas, mais tous ces gens-là doivent voter, et tous ces gens-là votent, et tous ces gens-là, et tu te dis, on n'est pas sortis de l'auberge. en tout cas, à la fin de valoriser un peu cette insignifiance, c'est aussi le petit côté qu'on se prend au sérieux. Ça me fait halluciner. T'sais, si ça reste dans la surface avec l'humour, ça passe un peu mieux. Mais moi, ça me fait rire. Tu sais, quand il parle du souper d'élimination, puis c'est de l'élimination, puis avec un ton très sérieux, là. Comme
oui, oui.
T'entends presque, vous serez les premiers à débarquer à Omaha Beach face aux nazis. Attention
à votre bataillon. Oui, D-Day. Oui.
Oui, c'est ça, exactement, le jour J, puis tu te dis, attendez, là, arrêtez de prendre votre ton au sérieux, là, parce que c'est ridicule, tout ça est ridicule, ok, on accepte, parce que dans la vie, je suis d'accord que des fois, il y a des moments légers, moi, j'ai absolument rien contre des moments plus sérieux que des moments légers, puis du rire, comme si tu rires de la bedaine ou des trucs, des spots pour la tête, là, où genre, on oublie tout, qu'on suit la parade. Mais enfin, c'est juste que ça m'a frappé encore, puis c'est pas la première fois hein, qu'ils font des tests
non,
de
non.
connaissance.
Oui, alors, c'est important de le rappeler parce que j'avais écrit une petite chronique aussi dans le journal, puis je viens de la retrouver pendant que je te parle. Écoute, ils avaient fait un quiz sur le Québec à Occupation Double. Il y avait trois couples de candidats qui devaient montrer l'étendue de leur inculture, comme je disais. Donc, alors, je te cite, ils étaient incapables de compléter les paroles de la manique de Georges Dor, incapables de dire combien d'habitants compte le Québec, incapables de reconnaître Yvon Deschamps, incapables de nommer le fleur d'Élysée. Et il y a un seul couple qui a été capable de compléter adéquatement la fameuse citation de René Lévesque, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Et ce qui était particulier, c'est qu'il y avait certains des candidats, tu sais, comment ça marche à Occupation Double, tu sais, il se passe des affaires, là, tu sais, genre un tel French avec une telle, etc., etc. Et après, t'as des entrevues individuelles où ils commentent ce qui se passe. Puis là, une des filles qui devait commenter le fait qu'elle avait manqué de culture générale dans le quiz, voici ce qu'elle avait à dire.
J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai. Ben oui, Lucie, j'embarque dans le même bateau.
J'ai aucune culture. Non, mais c'est parce que, tu sais, tu peux... Il fut une époque au Québec où... parce qu'on était, on vient de loin. Et il fut une époque au Québec où quand tu n'avais pas de culture, quand tu n'avais pas de connaissances, c'était un sujet de honte où tu te disais, ben oui, je connais pas grand chose, mais sais-tu quoi, je vais me retrousser les manches, je vais aller à l'école, je vais prendre mes souliers, je vais passer 25 minutes, une heure dans la neige pour aller à l'école, pour améliorer mon sort, pour remplacer mon foreman anglophone, parce que moi aussi, je veux me faire une place au Québec, puis je veux bâtir le Québéking de demain. En gros, là, je résume, mais en gros, c'est ouais. ça. Alors qu'aujourd'hui, on a... Il y a pas de culture, puis tu fais de ça! Écoute, c'est décourageant, là.
Ouais, c'est décourageant, puis comme je dis, c'est en plus, ces gens-là sont valorisés, ces gens-là sont mis en avant-scène, ces gens-là, après... ils deviennent des gens de pseudo-vedettes, ou en tout cas, il y a vraiment une jeunesse qui les regarde, et je me dis, des fois, on valorise vraiment les mauvaises affaires. Là, je veux dire, c'est quand même un peu hallucinant quand on prend le petit pas en arrière là, à regarder tout ça.
Je vais te poser une question, Jean-Michel. On a le même âge, toi et moi. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut pointer du doigt ces gens-là ou pointer du doigt le système d'éducation québécois, le système public? Parce que c'est pas... Est-ce que c'est normal que... Je sais pas, moi, j'essaie de penser. J'imagine qu'en Espagne, qu'il y a des gens qui sont passés à travers l'école, à travers l'équivalent du lycée et qui se retrouvent et qui savent pas que Madrid, c'est la capitale de l'Espagne. Penses-tu que c'est possible dans d'autres pays où c'est...
Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent. Moi, des trucs que je pense. Premièrement, je suis très content qu'on ait un système d'éducation publique. Je pense que c'est quelque chose de très important pour qu'au début de la course de la vie, tout le monde ait les mêmes chances. Et je vais le dire quand même, je viens d'un milieu favorisé, mais j'ai fait l'école publique au primaire et j'ai fait l'école publique au secondaire et au cégep, j'ai fait l'école privée. Mais au primaire et au secondaire, mais je viens d'un milieu privilégié, je dois le dire, où c'était une école publique qui n'était pas une polyvalente énorme. On était à peu près 600 étudiants au secondaire, donc 120 par niveau. Donc, c'était un environnement très stimulant, etc. Moi, puis ça vient vraiment de ma famille, de ma mère, mais tu sais, il faut toujours se battre, je pense, pour une école publique de qualité, justement, pour que les immigrants, les enfants qui viennent de milieux défavorisés aient les mêmes chances. Parce que si au début de la course de la vie, ces gens-là n'ont pas la même chance que les autres, là, on est vraiment dans un système où l'ascension sociale, où les différences économiques
oui, je comprends.
Vont vraiment frapper. Donc, ça,
je comprends, mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Qu'est-ce qu'on leur apprend, Jean-Michel? Oui. Comment se fait-il que quelqu'un peut sortir de l'école en ne sachant pas ces choses-là? Puis dans la fameuse chronique dont je te parlais tout à l'heure, écoute, j'ai fait toute une liste de la façon dont les gens s'expriment. Tu te dis, mais c'est pas vrai qu'ils sont allés à l'école en français. Je me suis sentie comme un shark right away, genre, obviously, come sorry, je fais ça rough, I'm sorry, man. J'aurais bondé, pour vrai, j'ai fité right in, fair enough, il était la glue dans la maison, j'ai senti une vibe, je me suis skippée. Le gars que je soupais avec, j'étais un peu malaisée, for sure, je vais deal with it, tu vas être depressed, ça spark un intérêt. Je ferais pas au complet parce que ça prendrait une demi-heure, mais amusez-vous full, genre, c'est pas un done deal.
Ouais, et là, tu ne te même pas, là. Il y a tellement.
Non!
Je sais, c'est ça. Je sais. Je sais que c'est ça. C'est une bonne question. C'est-à-dire que, regarde, moi, j'ai un énorme respect pour les professeurs qui travaillent dans des conditions difficiles, des classes trop souvent, trop nombreuses, et la plupart font une très bonne job. Mais c'est vrai, est-ce qu'il devrait avoir un genre de test à un moment donné, uniformisé par rapport aux connaissances de base? Comme on fait parfois passer pour les néo-canadiens ou néo-québécois, je sais pas là, comme le plan, mais pour tout le monde. Là. Parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même hallucinant là, que tu saches même pas à l'âge que tu as
ouais.
que c'est quoi, quelle est la capitale de ta province et du pays. Je veux dire, c'est
mais
la
non, tout le monde sait que c'est Montréal, la capitale du Québec, puis que c'est Toronto, voilà. la capitale du pays. Là. Come on, là. Voyons. Bon, très drôle. Et écoute, il voilà. y a un autre sujet, ironie, il y a un autre sujet dont je voulais absolument te parler. En fait, c'est toi qui l'as suggéré comme sujet, puis je suis tellement contente que tu abordes ça. Écoute, la bande de, j'allais dire la gang, mais vous allez comprendre pourquoi, la gang de Like Moi à Télé-Québec qui font vraiment un humour décapant et c'est assez surprenant parce qu'ils ont fait un sketch sur en fait la rectitude politique. Alors ça se passe dans un milieu de travail, il y a un collègue de travail qui a envoyé un mémo à tous ses collègues et l'intitulé du mémo c'est « Salut la gang » puis il se retrouve dans l'eau chaude, il est convoqué par son patron et par une collègue de travail qui lui disent « Ben voyons, tu peux pas dire « Salut la gang » parce que c'est pas inclusif » puis la gang ça fait référence à des criminels. Alors, on va écouter un petit extrait, c'est absolument hilarant puis on en parle après.
Mais je suis vraiment pas à l'aise avec l'utilisation du mot « salut » dans « Salut la gang ». Ça fait néo-nazi.
Mais voyons.
Déjà que les autres me regardent parce que je suis la seule femme noire du bureau.
Excuse-moi, mais t'es pas noire.
Je m'identifie comme femme noire, peux-tu?
Mais t'es pas noire.
Être noire, ça n'a pas rapport avec la couleur de la peau. Chez moi, ça se manifeste dans mon amour pour les beaux vêtements colorés.
Mais pas noire.
Officiellement, on peut pas le savoir si elle est noire, on n'a pas le droit d'y demander.
Le terme « salut » a de plus en plus une connotation d'extrême droite, j'aime pas ça.
Mais là, c'est un mot super commun, tout le monde dit ça.
Oui, je comprends. Ma seule demande, c'est que tout le monde change pour accommoder mon malaise.
Que tout le monde change pour accommoder mon malaise. Écoute, c'est quand même surprenant parce que Télé-Québec, c'est très, ça se veut très rassembleur, mais très positionné à gauche. Et je veux dire, c'est une génération en plus qui est très, justement, très woke habituellement et qu'ils aient fait ce sketch-là, je trouve que c'est quand même qui dénonce justement la rectitude politique, qui ridiculise les... Écoute, la fille, elle dit qu'elle est noire, elle est même pas noire. C'est assez drôle. C'est surprenant quand même.
Oui, puis c'est drôle parce que je ne l'avais pas vu passer à quand il date à peu près un mois, là, presque un mois, trois semaines, et je l'ai vu partager les réseaux sociaux. Et j'ai vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais ri comme ça devant un sketch. Et comme tu dis, je trouve que ça résume tellement les dérives présentement.
Oui.
Ce qu'on appelle les micro-agressions, et tout le monde est donc offusqué, et la moindre chose m'offusque, et là, t'as pas le droit de contester que je suis offusqué, parce que je te dis que je suis offusqué, donc j'ai raison. Je veux dire, ce sketch est un bijou d'écriture de Marc Brunet, qui est un
oui.
très bon, et de l'iPad, c'est pas la première année, mais de voir qu'on a encore ce souffle-là, qu'on a encore des numéros qui frappent vraiment fort, donc j'adore. Le jeu des comédiens est parfait parce que tu sais comme le grand John Cleese là, des Monty Python, il disait toujours
oui.
Never play it funny. Ne joue pas, ne surjoue pas, ne joue pas drôle. Joue
oui, très oui.
calme. Et Philippe Audrey Larue et autant que Yannick Martineau joue hyper calme. Sonia Cordeau qui est la fille agressée est géniale. Tout est l'écriture. Comme je dis, ça résume vraiment notre époque, là, l'absurdité de notre époque et qu'au final, on change gang pour ribambelle.
Oui.
dit Youpilou, je pense, pour salut, parce que salut, ben, ça pourrait penser au salut Nazi ou tout ça. Je veux dire, c'est un bijou d'écriture. Regardez ça, mais pour vrai, là, ça résume l'époque un peu malade dans laquelle on est présentement, où il y a, je m'excuse, mais il y a des dérives de gens qui se disent micro-agressés par n'importe quoi, puis des fois, j'aurais le goût de dire, tu sais, je reviens toujours à ça, c'est comme, je comprends, mais des fois, il faut arrêter, là, de, tu sais, il y a des trucs qu'on peut prendre sur soi. Une vraie agression, c'est quelqu'un, comme je dis, qui te marche en rue, qui te tape, quelqu'un qui fait de, colporte des rumeurs ou qui sur toi ou qui ment, la diffamation, ça, il y a des vraies agressions dans la vie, mais quelqu'un qui des fois se sent fâché pour un petit truc, t'as le goût de dire, attends, prends sur toi, c'est pas ça une vraie agression. Alors, je trouve que ce sketch...
Une petite tisane.
Absolument génial, ouais.
Oui, alors je suis contente que tu soulignes que c'est Marc Brunet, le scénariste. Lui ne fait pas partie de cette génération-là, et c'est justement ça qui est amusant, c'est qu'il soit si juste à décrire différents travers de la génération, mettons, des milléniaux. Puis Marc Brunet, il faut quand même le rappeler. Écoute, je te dis pas ça de mémoire, là, je l'avoue, je suis allée voir sa fiche Wikipédia pour être sûr de rien manquer. Écoute, bien sûr, c'est le scénariste de Like Moi, mais aussi Les Bobos, 3600 secondes d'extase, Le cœur à ses raisons, Le Grand Blond avec un chausson-noir, La Fin du Monde est à 7 heures. Écoute, cet homme-là, à lui seul, nous fait rire depuis, écoute, 20 ans. Ouais, nos plus grands éclats de rire, c'est Marc Brunet.
Oui, exactement, puis il est dans l'air du temps. J'ai un énorme respect pour ce gars-là, mais c'est ça en plus qui a su se réinventer, qui a fait des trucs différents et qui est encore d'actualité et qui a pas un humour qu'on peut se dire oh, ça a mal vieilli, parce que tu regardes ce sketch-là. Et son regard, peut-être parce que c'est le regard de notre génération qui fait comme, attendez, là, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est un peu absurde tout ce qui est en train de se passer au niveau de la rectitude politique, puis les gens sont donc fâchés. Mais en tout cas, je voulais le souligner parce que vraiment, allez voir ça, c'est vraiment, vraiment très drôle et très intelligent. Et je trouve que c'est ce que j'aime dans l'humour, quand il y a un regard sur la société actuelle, il y a l'absurdité, il y a une genre de critique aussi de notre société, des dérives. Alors, je trouve que c'était vraiment un truc qui, ça faisait longtemps qu'on a fait rire comme ça. Et aller voir ça, parce que je trouve que ça, ouais, en 5 minutes, ça résume notre drôle d'époque, là, où tout le monde.
Totalement.
Je veux dire, par moment, là, c'est un peu exagéré, là.
Mais ben je suis très contente, puis ta formule est très bonne, tu sais, des gens qui disent je te dis que je suis offusqué, donc j'ai raison. Ben c'est on en arrive à ce genre de raisonnement là, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux, comment veux-tu argumenter avec quelqu'un qui te dit je ne veux pas débattre avec toi, parce qu'à partir du moment où je te dis que je suis offensé, tu ne peux que t'excuser et m'écouter. On peut même pas débattre de est-ce que j'ai la raison d'être offusqué, est-ce que j'ai le droit. Et en plus, je te dirais, il y a certains médias qui embarquent là-dedans. À partir du moment où quelqu'un dit, je fais juste référence, par exemple, Adib Al-Khalidé, pas hier soir, mais il y a une semaine, à Tout le monde en parle, qui parlait du mot qui commence par un N, et il disait, ben à partir du moment où quelqu'un te dit qu'il était offensé, t'as plus le droit de le dire. So, il faisait complètement abstraction du fait qu'il y a personne qui se lève le matin au Québec en disant « Je revendique le droit de dire le mot nègre ». C'est pas vrai. Ça n'existe pas, cette réalité-là. Et la seule chose qu'on demandait, c'était que dans le contexte académique ou dans le contexte journalistique, qu'on ait le droit de citer le titre d'une œuvre. Mais
absolument. T'as raison. T'as absolument raison là-dessus. Et pour ajouter à ça, il n'y a plus de discernement. C'est-à-dire que le cri du cœur d'Adib de dire quand il était jeune, il manquait de représentation, je le comprends, puis je le respecte, puis je l'accepte complètement. Et de dire qu'il manque encore, selon moi, de représentation dans la fiction, tout ça, je suis d'accord. Mais quand il disait qu'à chaque fois que les minorités étaient présentées de façon négative, je m'excuse, mais c'est pas vrai.
C'est faux. Pour
moi,
mais non.
Cette série où vraiment les gens racistes sont ridiculisés, humiliés, tout ça. Je m'excuse, mais c'est pas vraiment vrai. Oui, il manque de représentation. Donc, son critiqueur, il y a des choses que je suis absolument d'accord avec lui et je doute pas du tout de la sincérité et je l'écoute et je suis d'accord. Tu sais, même au début de la saison, j'avais dit.
Oui, on s'en est parlé.
C'est toujours mon argument. Prends le métro, va voir tout ce monde racisé qui vient d'ailleurs. Ben, c'est vrai qu'on, ce rapport-là. Mais ça montre aussi la différence entre Montréal et le Québec aussi. Tu sais, on est deux. Il y a deux Québec, tu sais, il y a le Québec montréalais allophone, anglophone, et il y a le Québec, le reste de la province. Le reste de la province, dans la télé, se reconnaît, dans cette télé un peu plus blanche, pain blanc, mais Montréal est vraiment différente. Il y a vraiment une dichotomie entre de la représentation de Montréal, oui, et du reste du Québec. Mais il y a plus de discernement et de critiquer, de dire, moi, je suis pas d'accord que de dire qu'à chaque fois que quelqu'un est ridiculisé, humilié, ben, c'est pas vrai. Parce que, sérieusement, sortez-moi, là, 5 séries où c'est le cas depuis 5 ans.
Mais, et,
si je reviens à ça, on en avait parlé l'autre fois rapidement, mais le fameux sketch de Bonne année Roger de Claude Meunier sur le chauffeur de taxi. Ce qu'on appelle la voix de la raison en humour, la seule personne qui est la logique, ben, c'était le chauffeur de taxi. C'était le seul dans cette famille québécoise au début des années 80 qui était pas ridicule, qui avait le regard intelligent,
voilà,
l'équivalent de Jim dans The Office, qui est la voix de la raison, qui regarde la caméra, qui dit, vous êtes en train de réaliser ce qui est en train de se passer. Ce sont tous des imbéciles, sauf moi. Dans ce sketch-là de Claude Meunier, la seule personne, la seule voix de la raison, et regardez-le, le sketch-là.
Oui,
oui. Au début des années 80, 81, c'est la seule voix de la raison, c'est le chauffeur
de taxi. C'est l'immigrant. Oh
ouais,
oui, tout à fait.
L'immigrant. Tous les autres sont ridicules. C'est le père.
En fait, excuse-moi, il n'est pas chauffeur de taxi. Il n'est pas chauffeur de taxi. C'est quand il dit, c'est ça. Voilà, exactement. Non, mais écoute, c'est très drôle. Puis aussi, dans La Petite Vie, comment s'appelle-t-il? Dany Turcotte l'a dit à Adib Al-Khalidé. Dans La Petite Vie, on rit de tout le monde. On rit pas juste du personnage africain joué par Norman Brathwaite, on rit des Québécois, on rit des gays, on rit de tout le monde est ridicule. Ils dorment debout, puis ils sont obsédés par leur vidange. On va se quitter là-dessus, Jean-Michel, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a,
tu te dis, le premier peuple qui est ridiculisé ou dont on rit, c'est le Québec, c'est le Québécois.
Voilà.
C'est ça, mais, voilà.
Ben voilà, exactement. Écoute, on va se quitter quand même avec cette phrase célèbre de cette concurrente d'Occupation Double.
J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai. Ben oui, Lucie, là, j'embarque dans le même bateau.
J'adore ça. Je pense, je vais en mettre ma sonnerie de téléphone, ça va être ça. J'ai pas de culture, puis je trouve ça drôle. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. On se retrouve la semaine prochaine.
Toujours un plaisir. Bonne journée, bon lundi. Bye-bye.
Le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufault. Lui, on peut dire qu'il en a de la culture.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Un petit peu plus tôt ce mois-ci, la ville de Longueuil a annoncé sa décision d'euthanasier une quinzaine de cerfs dans le parc Michel Chartrand parce que il y a une surpopulation, dit la ville, de cerfs dans ce parc. Ça fait pas du tout l'affaire d'Anne-France Goldwater, maître Goldwater, qui est avocate et militante des droits des animaux. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, maître Goldwater.
Bonjour, comment ça va?
Moi, ça va très bien. Vous, par contre, on vous a vu très ému en fin de semaine devant le sort qui est réservé aux cerfs qui doivent être abattus normalement aujourd'hui. Après, vous êtes porté à la défense des pitbulls. Maintenant, c'est les cerfs. Pourquoi est-ce qu'on doit sauver les cerfs du parc Michel Chartrand, d'après vous, Madame Maître Goldwater?
Parce que nous ne sommes plus en compétition avec nos concitoyens à quatre pattes sur la planète. Nous avons pris le devant, nous sommes le prédateur au sommet de la montagne et nous déterminons la survie ou la mort de toutes les espèces de la planète. Si nous avons choisi d'empiéter sur des territoires qu'avant ces cerfs occupaient très paisiblement, et on n'est plus dans une question de chiens dangereux, mais des cerfs paisibles, quoi. Il faut qu'on pense à la bonne gestion de ces animaux-là, sinon on va se retrouver à un moment donné, et ça approche à grands pas, où on ne va plus avoir des animaux sauvages. Des animaux sauvages, j'haïs l'expression en français, en English, wildlife. On va plus avoir des animaux qu'on pourrait au moins observer dans les environnements naturels. Et je trouve que la société a beaucoup évolué, vous savez. On ne bat plus ni sa femme ni son enfant. Il y a une époque, les opérations, les chirurgies qui étaient faites sur des bébés. Nos bébés étaient faits sans anesthésie parce qu'on croyait qu'un bébé ne ressentait pas la douleur. Alors, il faut penser que la société a évolué. Et on ne prend plus la vie des animaux domestiques, de la ferme, des animaux sauvages à la légère. pour les habitants, pour les résidents de Longueuil, ces serres font partie de leur communauté. Vous pouvez le voir comme un attrait touristique, vous pouvez le voir comme un avantage pour les enfants du quartier. Si vous définissez les choses à travers les yeux de l'être humain, ça, ça va. Moi, je vois juste que ces animaux ont un... Ils n'ont pas une garantie de vie, mais ils ont droit à la vie, à mon avis.
D'accord.
Vous comprenez?
Avez écrit...
Il n'y a pas de garantie.
Oui. Oui. Vous avez écrit en fin de semaine, parce que vous êtes allé à une manifestation en fin de semaine devant l'hôtel de ville, et vous avez écrit après sur votre compte Facebook, je veux juste être sûre de bien vous citer, vous avez dit que toute cette histoire-là vous empêchait de dormir. C'est vrai, c'est une exagération ou vraiment ce dossier-là vous cause de l'insomnie? Ça vient vraiment vous chercher?
Mais sûr, ça vient me chercher. Parce qu'on n'est pas là dans un contexte de chasse naturelle. Moi, j'ai rien à dire et j'ai rien à critiquer. Je suis pas si pure et dure. Vous voyez, je suis pas si militante que ça. Je peux comprendre que dans des environnements naturels où il y a une très grande population d'animaux, quelqu'un va à la chasse. C'est pas à moi de juger la personne s'il veut chasser un orignal ou un cerf pour le rapporter chez eux le manger. Moi, je le ferai pas pour les raisons qui sont les miennes et je le ferai également pas parce qu'il n'y a pas de contrôle de la santé de ces animaux-là. Il y a plein de ces animaux qui sont affligés de parasites, qui sont infectés de micro-organismes, pas juste les virus et les bactéries, mais aussi les prions. Et il y a la maladie spongiform encephalopathy, pas le moindre idée comment dire ça, la maladie débilitante des cervidés, je crois. Alors,
oui,
moi,
peut-être.
Je mangerai pas de viande qui n'a pas été inspectée par un inspecteur de la province.
Ouais.
Et de toute façon, je suis en train de faire mon évolution vers ne plus consommer aucune viande. Alors, je travaille sur ça. Mais moi, je mangerai pas la viande qui n'a pas été inspectée. Et de toute façon, j'ai presque éliminé ma consommation de viande. Je travaille avec ardeur sur ce projet personnel pour ma santé et pour la santé de notre environnement. Mais je critique pas les autres. Mais ici, on va les abattre. Pourquoi?
Ben,
parce qu'il faut
justement,
réaliser,
venons-en.
Si vous abattez, si vous abattez ces cerfs-là parce qu'il y a un surpop, la biologie étant qu'est-ce qu'elle est, il va, ça, soit c'est la biologie ou ça va être une réunion politique entre les cerfs et les biches dans la nuit. Bon, on a perdu la moitié de notre population. Faut qu'on se mette à, davantage à devenir plus fertile. Et après cette réunion politique ou la biologie innée de la chose, va savoir. Les femelles, les biches deviennent plus fertiles, vont reproduire, faire plus de, accoucher plus de jumeaux et de triplets, plus de femelles, plus de biches, parce que c'est ça qui détermine la réussite d'une population d'animaux sauvages. Donc, on va se retrouver avec le même problème de surpop dans un an, deux ans, trois ans. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va devenir un abattoir, ce parc? Est-ce qu'on va inviter nos enfants? Moi, j'aime me promener dans le bois parce que j'ai des chiens et j'ai des petits-enfants. Est-ce qu'on va amener nos enfants dans le bois pour voir l'abattage des cerfs chaque année ou chaque trois ans? Est-ce qu'on va inviter des touristes? Avec ça, c'est une recette qui va juste miner le sentiment de civilisation et de bien vivre et de sérénité. Le bon âme chrétien, permettez-moi de le dire. Si on se permet à faire ça comme si c'était de la routine.
Moi, je comprends le danger qu'il pourrait y avoir si on en fait une habitude, mais dans ce cas-ci, les gens de la ville et la mairesse disent, bon, c'est un problème de surpopulation qui est pas anodin parce que ça menace l'avenir écologique du parc. En plus, bon, ça, c'est un argument, je trouve, qui est moins fort, mais quand même, il y a des risques d'accidents routiers autour du parc et la possibilité de la transmission aussi de la maladie de Lyme. Donc, est-ce qu'on se retrouve pas dans un cas où il faut mettre dans la balance, puisque vous êtes avocate, vous êtes habituée, hein, on doit, la balance de la justice doit s'équilibrer. D'un côté, il y a les droits des animaux, et de l'autre côté, il y a aussi tous les dommages que ça peut causer. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là, Maître Goldwater?
Premièrement, je suis 100% en accord avec eux. Alors, quand ils m'ont parlé de ces problèmes, j'ai dit « OK, et bonne avocate que je suis allée faire des recherches scientifiques, parce que c'est ma... Ça, c'est la fondation de mon éducation, c'est la science. Et Et j'ai découvert ceci. Premièrement, s'ils ont peur que ces cerfs et biches ils sont pas porteurs de maladies, ils tombent pas malades. Mais s'ils sont le réservoir, le réseau naturel de ces tiques à pattes noires, communément appelé tiques de chevreuil, la guérir ces cerfs-là, eux, encore je répète, ils tombent pas malades, mais éliminer le risque de transmission de la maladie de Lyme ne coûterait pas qu'un couple de centaines de dollars par saison, parce que vous n'avez, et c'est tellement facile, soit vous le mettez en collier comme on met à nos chiens, et ça dure la saison, soit une fois par mois, vous créez comme une poste de bouffe où le cerf insère sa tête pour chercher un peu de bouffe. Et là, il y a des rouleaux qui vont appliquer de ivermectin sur la tête et la nuque. Et ça va guérir, ça va tuer les tiques dans 24 heures. Et où vous mettez une fois par mois un peu de bouffe avec un produit similaire. C'est pas ivermectin, c'est notre permethrin, je crois. Encore, ça tue les tiques dans 24 heures. Donc, s'il y a une peur qu'il y a des tiques, mais mon Dieu, ça, c'est un danger public. I mean, est-ce qu'on est complètement stupide et tombé sur nos têtes? Il y a des êtres humains qui se promènent dans le parc. Si la crainte est raisonnable que ces cerfs ont des tiques sur eux et le risque est réel, croyez-moi, j'ai fait la recherche. Les tiques sont rendues d'ailleurs, à Montréal, c'est vrai. Mais il faut, en ce cas-là, soigner les cerfs. Il faut les soigner, il ne faut pas les abattre. Faut les
c'est
soigner
pour ça. Tout. C'est pour ça, Maître Goldwater, que vous invitez la mairesse de la ville de Longueuil à s'asseoir avec vous dès lundi matin. C'est ce que vous écriviez, en tout cas, sur votre page Facebook. Avez-vous une réponse de la mairesse?
J'ai pas de réponse, mais je suis tombée. Ce qui m'a empêchée de dormir, c'est qu'ils vont jeter à la poubelle 65 000 $ de l'argent des contribuables, soi-disant pour chercher la viande de ces cerfs. OK? Et là, j'ai fait un calcul en mathématiques. J'ai calculé le nombre de livres de viande, le prix. Écoutez, on est mieux d'aller acheter du filet mignon à Costco. Ça va coûter 4 ou 5 fois moins cher d'offrir du filet mignon aux pauvres. C'est pas pour dire que les pauvres veulent du filet mignon plus que des personnes moins pauvres qui veulent améliorer leur alimentation, manger moins de viande. Mais moi, je préférerais qu'ils offrent le 65 000 directement aux pauvres et des gens qui ont perdu des emplois parce qu'on est au milieu d'une pandémie. Et je vous garantis, on va trouver la solution qui va rien coûter à la ville. Parce que moi, je suis assez genre de la droite de vouloir trouver toujours la solution qui est économique pour une communauté. Pour un coût de 100 ou 200 $ par année, par biche, on peut offrir de la contraception à ces biches-là, un produit tout à fait non nocif. Ah pardon, c'est même moins que ça parce que cette contraception-là dure 3, 4, 5 ans. Et là, on va régler, on va avoir une bonne gestion animalière. On va plus avoir trop de bébés, trop de fonds, en français.
Des fonds,
et puis,
oui.
ça va pas être coûteux. Et puis, on va pas enseigner à nos enfants que nous avons le droit, avec la surpopulation d'êtres humains qu'il y a sur la planète, qu'on a juste le droit d'exterminer toutes les autres espèces. C'est ça que... Et la population ne peut pas le supporter. On n'est plus capable de supporter ceux qui, avant, étaient juste dans un film pour enfants. Et Bambi,
je m'en allais là. Oui, c'est ça. Mais vous savez,
moi, j'ai perdu ma mère jeune. Donc, la première fois que j'ai vu ce film, traitez pas ce film comme banal pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes dans mon cœur pendant tout
bien
le film.
Bien sûr.
J'étais pas capable de me concentrer parce que le chasseur a tué Bambi.
Mais est-ce que justement, les gens pourraient pas vous dire, Maître Goldwater, que vous êtes trop sensible? Parce que c'est un reproche qu'on vous a fait. Je fais l'avocat du diable, hein. C'est un reproche aussi qu'on vous a fait quand vous défendiez les pitbulls, de dire que vous aviez plus de compréhension, plus de compassion pour les animaux que pour les êtres humains. Est-ce que c'est pas un peu le cas ici aussi, dans le dossier des cerfs de Longueuil?
Mais non. Bien entendu que non. Et c'est pas la résistance à ma perception, à ma philosophie ne vient pas de là. J'ai bien compris, les gens aimaient pas la cause de ce pitbull qui était jugé dangereux. Mm-hmm. Mais sachez que j'ai plaidé la cause de 33 minous de Saint-Eustache que Mme Nathalie Doucette avait sauvé des chats errants et elle prenait soin d'eux à un coût personnel. Pas un coût à la ville, un coût personnel de $600 par mois. Et la ville a obtenu une ordonnance de tuer tous ces chats-là. Et la cour d'appel, je l'ai représenté sans frais. La cour d'appel a rejeté ma demande de revers de la main. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Oui, c'est sûr, avec le chien, c'est différent, mais le bon résultat de la cause du chien dangereux, c'est la cour d'appel à moins ou à accepter mon argument. Pour qu'un chien soit considéré dangereux, faut qu'il soit évalué. Faut donner la chance au propriétaire de défendre son animal et prouver que son animal aussi n'est pas dangereux. Ça, c'était au moins une réussite mitigée. Ils n'ont pas voulu sauver ce chien trop dangereux, mais ils ont établi un principe qui m'aide dans toutes mes causes de défense de chien. Mais là, le cerf, tout comme le chat, ne dérange personne. J'ai jamais entendu un cerf mordre un être humain. Ils sont végétaliens à 100%, sont pas dangereux. Sont pas dangereux et l'instinct le plus profond chez l'avocat, qui bat dans le cœur de tout avocat, on est entraîné pour ça, c'est notre dressage. C'est de défendre la personne ou l'animal ou tout être qui est démuni, qui est dévalorisé, qui n'est pas défendu. Vous vous rappellerez
Mais défendre l'injustice, en fait. Oui.
Mais c'est ça, la justice. La justice, les riches, les forts. Les personnes fortes et riches qui ont du statut social n'ont pas besoin de justice. Moi, j'ai pas besoin de justice. J'ai un problème, j'achète la solution au magasin. Mais ce sont toujours les personnes avec moins de pouvoir social qui n'ont pas de
moyens. Surtout qu'on sait, Maître Goldwater, vous nous l'avez dit la dernière fois que je vous ai interviewé, vous m'avez dit combien vous chargiez de l'heure. C'est pas loin de 800 $ de l'heure. Donc, je pense que vous avez pas de problème en effet financier.
Mais c'est exactement ça qui me tue.
Oui.
C'est ça qui me tue. Comme j'ai toujours admiré, par exemple, le regretté premier ministre d'Angleterre, Margaret Thatcher, dans le temps. Mais en vieillissant, ce que j'ai trouvé cruel, c'est que je l'ai admiré parce que je l'ai vu une femme comme moi, forte et dure et ambitieuse et tout. Mais à force de vie, vous réalisez, c'est pas tout le monde qui peut réussir comme Maggie Thatcher a réussi, comme moi j'ai réussi dans la vie. Est-ce que j'ai le droit de devenir cruel et traiter les autres citoyens comme moins méritants de la dignité, la justice et la représentation parce qu'ils n'ont pas de moyens? Ça, j'ai résolu dans mon cabinet parce que j'engage des jeunes avocats à très bas tarifs et je mets mon nez dans tous ces dossiers-là pour donner un peu de mon expérience.
Mais pour l'accessibilité. Oui, pour l'accessibilité à la justice, c'est extrêmement important.
Mais qui va parler pour tous ces animaux? Qui va parler pour les 33 chats de Madame Doucette, le chien de Montréal-Nord, les cerfs de Longueuil, qui soient des bons concitoyens à quatre pattes ou des moins bons citoyens à quatre pattes? Ils ont également des droits. Écoutez, dans mes dossiers de divorce, la guerre de Minou et Pitou devient un sujet très chaud entre des parents, entendu, qui a des enfants. Même sans, il n'y a pas, j'ai fait un divorce récemment d'un jeune couple qui n'était pas rendu avoir des enfants, mais ils avaient un jeune chien. Et les deux ont pleuré des chaudes larmes pour comment résoudre la garde de l'animal. C'est pas une farce. C'est aussi la souffrance humaine. Et c'est aussi la reconnaissance du devoir moral de l'être humain de mieux veiller à son environnement. Vous savez, la science-fiction. Ce n'est plus la science-fiction, le danger qu'on va laisser notre planète comme un dessert sans verdure, sans animal. Là, c'est un danger réel et imminent.
Alors, Maître Goldwater, comment ça se passe, votre végétarisme? Parce que là, avec toutes les défenses de pitbull, de minou, de cerf, donc il faut vraiment que vous deveniez 100% végétarienne, là, parce que vous pouvez plus manger du poulet puis des crevettes après le vibrant plaidoyer que vous avez fait pour les animaux, là, que vous nous faites ce matin.
Touchez-moi pas les crevettes. Crevettes et homards, ils sont trop moches pour être... Ce sont pas des mammifères. J'essaie de raisonner avec ma fille. Mais j'ai fait de l'anémie. J'ai une casse-tête constante avec mon docteur et c'est une plus longue histoire. Parce que quand on mange pas de la viande, bien sûr, on perd du fer dans notre sang. J'ai dû prendre des suppléments, des vitamines, des ci et ça. Et même récemment, j'ai recommencé pendant 2-3 semaines à manger un peu de viande pour essayer de restaurer mon sang. Mais je sais, c'est mon erreur. On peut bien me critiquer parce que pour prendre la position que je prends, bien sûr, il faut que je me rende vraiment végétalienne, like really 100%. Mais
appelez Georges Larac, puis demandez à Georges des conseils, parce que c'est pas normal. Vous pouvez très bien être végétarienne et même végétalienne et ne pas manquer de fer. Donc, vous appelez Georges, il va vous conseiller des bons.
Et je vais le faire. Non, non, sérieux, faut pas rire, je vais le faire parce que oui, ça prend justement d'alimentation, mais on mérite tous de faire cet effort-là. Parce qu'il y a une question aussi de survie de la planète. C'est pas juste pour faire plaisir à la prochaine vache que vous allez rencontrer. C'est juste, ce n'est pas soutenable, notre façon de consommer. Et par rapport à notre santé, éliminer la viande a aidé mon cholestérol à revenu normal.
Ah ben donc voilà, Maître Goldwater, on va se quitter là-dessus. Non, tout à fait. Puis il y en a une nutritionniste qui est formidable. J'avais fait un documentaire sur le végétarisme et je l'avais interviewée. Elle s'appelle Anne-Marie Roy, elle est nutritionniste. Alors vous devriez l'appeler. Maître Goldwater, c'est toujours amusant. Toujours une bonne discussion franche et animée. Quand on se parle à la radio. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin.
Puis,
bonne chance avec les serres de Longueuil. À Maître Anne-France Goldwater, donc, qui est avocate militante pour les droits des animaux et qui se porte à la défense de Bambi aujourd'hui.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Si vous trouvez ça inquiétant, les effets de la pandémie sur les jeunes, eh ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Pour la pédiatre Mélanie Anderson, c'est vraiment un très, très gros problème. Les conséquences à court, à moyen et à long terme. Mélanie Anderson, donc, qui est spécialiste en santé cardio-métabolique des jeunes au CHU Sainte-Justine. Madame Anderson, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi il faut s'inquiéter des effets de la pandémie sur les jeunes?
Et je pense que le temps d'écran augmente beaucoup pendant la pandémie, non seulement parce que les jeunes sont portés à devoir faire leurs cours et leur enseignement scolaire sur les écrans, mais aussi parce que ils ont été privés de leurs autres activités habituelles. Leurs parents sont en télétravail à la maison, donc ne peuvent pas assurer de prévoir des activités variées. Et donc, le temps d'écran augmente. Et la problématique associée à ça, c'est que le temps d'écran se montre très délétère. Et la science vraiment démontre que le temps d'écran est délétère au niveau du risque d'obésité, au niveau des troubles du sommeil, au niveau des troubles psychoaffectifs, troubles engagés, et la santé cardiométabolique, donc le risque de diabète de type 2, les problèmes de cholestérol. Donc, les problématiques associées à un temps d'écran augmenté sont nombreuses.
D'accord. C'est pas la première fois, évidemment, qu'on entend parler des dangers du temps d'écran, sauf que dans ce cas-ci, c'est jumelé avec d'autres choses, parce que le fait que les jeunes passent beaucoup plus de temps à la maison, le fait aussi que les activités sportives veut pas sont annulées, et le fait aussi que en passant plus de temps à la maison, ben ils sont juste à côté du frigo, comme par hasard. Je sais que moi, mon ado à la maison, il est constamment en train d'avoir le goût de manger des choses, puis c'est pas toujours des bonnes choses. C'est un peu la combinaison de tout ça. C'est comme la tempête parfaite.
Mais oui, vous avez tout à fait raison. Puis on a été capable de démontrer dans notre équipe que justement, le temps d'écran augmente les apports alimentaires. Et souvent, le choix fait est un choix délétère. Donc, des aliments plus riches en plus denses en calories, mais moins riches en nutrition. Donc, on voit vraiment. Tout à fait. Ce que vous dites, c'est que la pandémie nous a mis dans une situation de catastrophe, dans le sens que on a des jeunes qui sont moins actifs, qui sont plus sédentaires, plus de temps d'écran, ont plus accès à une alimentation, à du grignotage, et voire à souvent peut-être des collations moins nutritives parce que les parents sont occupés avec leur travail. Et donc, ça devient comme une espèce de cercle vicieux qui est difficile, qui est un bon défi pour tout le monde à briser.
Oui, ben justement, parlons-en. Parce que moi, j'aime bien qu'on parle des problèmes. Il faut les identifier, il faut les montrer du doigt. Mais mettons-nous aussi en mode solution. Parce que, ben, comme parents, on n'a parfois pas le choix. Parce que, justement, vous l'avez dit, on fait de plus en plus du télétravail. Les élèves, les étudiants se font dire, justement, s'ils sont au secondaire, un jour sur deux, ben, tu fais l'école de la maison. Et, ben, je veux dire, les activités sportive n'existe plus, les possibilités de sortir puis de faire des choses à l'extérieur de la maison sont de beaucoup diminuées aussi à cause de la pandémie. Alors, on fait quoi pour les faire bouger, nos ados?
La question est vraiment bonne. Je pense qu'il faut user de créativité. Alors, moi, je parle beaucoup avec mes patients de dire, bon, ben oui, là, on n'a pas nos activités structurées. C'est vrai. Mais on peut quand même sortir dehors, même si on commence à avoir un temps un peu plus frais. Il faut se dire qu'on habite au Canada et qu'on va avoir 6 mois de temps froid. Et donc, il faut apprendre à apprécier un peu.
À vivre avec. Oui.
Oui, exact. Donc, je pense qu'il faut quand même encourager les jeunes à sortir dehors. Que ce soit d'aller faire, bon, le temps qu'on puisse encore faire du vélo. Là, on a vu notre première neige à Montréal. Éventuellement, ça va être les activités dans la neige, la luge, des raquettes, même prendre un ballon de soccer puis jouer dans la neige au soccer. Il y a des choses créatives qu'on peut faire et qui permettent aux jeunes de prendre de l'air frais et d'être actifs. À la maison, c'est sûr qu'à l'intérieur, on peut faire des activités. Pas tout le monde, évidemment, a de l'équipement, mais on n'est pas obligé de faire d'équipement. Et une des choses que je pourrais encourager par l'utilisation des écrans, c'est la création de workout ou de sessions d'entraînement sans équipement qu'on trouve vraiment de façon prolifique sur l'Internet. Et ça peut quand même aider parce que il y a de ces activités-là qui sont accessibles pour tous parce qu'on ne nécessite pas d'équipement et qui augmentent le niveau d'activité physique, puis surtout le niveau d'activité physique modéré à vigoureux, qui est celui qu'on veut favoriser.
Oui, puis on peut le faire en famille aussi. Tu sais, ça peut être papa, maman et les jeunes. Bon, ben là, au lieu de s'affaler devant la télé pour regarder une émission, ben on se met tous, bon, c'est devant un écran, on est d'accord, mais quand même, puis on écoute José Lavigueur, puis on s'entraîne avec José Lavigueur.
Exact. Et puis, je vous dirais qu'il y a certaines communautés, certaines villes qui ont généré des liens avec des compagnies ou des organismes qui font de l'entraînement et qui offrent gratuitement des sessions de cardio fit pour la famille, des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'aller exploiter certaines opportunités, mais il faut être créatif, il faut chercher. C'est pas aussi facile qu'auparavant, quand on pouvait s'inscrire au centre communautaire pour aller faire une activité. Puis il y a certaines infrastructures qui sont ouvertes, évidemment, avec des restrictions. Par exemple, certains centres vont permettre de réserver des terrains, par exemple, de soccer pour la famille, pour aller jouer dans notre bulle familiale. Bon, c'est pas la même chose, évidemment, que de jouer au soccer dans son équipe de soccer, mais ça permet quand même une activité agréable en famille qu'on peut aller faire. Donc, je pense qu'il faut pas se décourager, faut juste être très créatif et il faut essayer de trouver des options qui plaisent aux jeunes. Par exemple, l'idée d'aller réserver un petit terrain de soccer dans un centre communautaire local pour jouer avec son jeune, c'est plus populaire pour un jeune garçon de 13 ans, supposons, que de faire un Just Dance avec lui.
Oui, donc, oui, non, je comprends. Puis il faut s'adapter.
Qui va intéresser le jeune, exactement.
Mais oui, puis je regardais.
Qu'il faut.
Je regardais ce matin mon collègue Louis-Philippe Messier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il faisait des suggestions, parce qu'en fin de semaine, il s'est dit, ben là, c'est pas vrai que je vais rester encabané, et il a fait toute une liste d'événements, de choses qu'on pouvait faire, d'activités. Et il y en a deux qui m'ont frappé. Il y a beaucoup de villes où les piscines intérieures sont encore ouvertes Alors, parce qu'on n'arrête pas de dire les gyms sont fermés, mais il y a beaucoup de municipalités où les piscines publiques sont ouvertes à l'intérieur. Et les gyms sont fermés, mais les centres d'escalade sont ouverts. Et ça, c'est une activité extraordinaire pour les jeunes, faire de l'escalade. Là, on se démène beaucoup en faisant de l'escalade.
Exact, absolument. Puis c'est des activités qui vont les attirer. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est trouver le plaisir, c'est l'aspect ludique de l'activité physique qui est importante pour le jeune, pour qu'il embarque et puis qu'il veuille persister.
Oui. Madame Anderson, donc, vous nous avez dit, dès le début, vous avez même utilisé le mot « catastrophe ». C'est les effets néfastes de ce confinement, de cette sédentarité, de cette prise de poids, vous en voyez les effets quoi? Court, moyen, long terme? Est-ce qu'on est en train de se préparer à ce que la génération 2020 soit une génération obèse avec des problèmes de diabète? Est-ce que c'est vraiment inquiétant à ce point-là?
Mais ce que je vous dirais, c'est que nos plus vulnérables sont les plus affectés. Et donc, les jeunes, par exemple, qui avaient déjà une problématique de surpoids, vont être encore plus vulnérabilisés. Les jeunes qui viennent de milieux défavorisés vont être encore plus ciblés, parce que c'est certain que si on habite dans un quartier chouette où il y a un parc, on peut laisser notre jeune aller jouer au parc. Si on habite dans un environnement qui n'est pas très sécuritaire, qui n'a pas de parc facilement accessible, c'est difficile pour le parent de laisser son jeune aller jouer dehors et justement être actif. Donc, il y a vraiment cette notion.
On n'est pas tous égaux devant la pandémie.
Exact. On n'est pas tous égaux et on ne l'était pas auparavant, mais la pandémie a comme mis en lumière ou empiré ces inégalités. Et puis, ce qu'on sait, c'est que avec les saines habitudes de vie qui sont apprimées, mais qui ne sont pas maintenant mises en pratique chez les jeunes, il y a une étude américaine qui a estimé que si on change rien, 57% des enfants d'aujourd'hui vont être obèses à 35 ans. Et ça, c'est trois fois plus que la moyenne d'obésité chez les adultes de 35 ans actuels. Donc, on a vraiment intérêt à s'investir, à réfléchir à des stratégies. Puis les stratégies sont de plusieurs ordres. C'est pas juste familial, hein. Il y a familial, il y a le niveau scolaire, il y a le niveau planification urbaine. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux où on peut intervenir pour améliorer les habitudes de vie des jeunes, les rendre plus actifs, diminuer le temps d'écran, favoriser une saine alimentation. Le sommeil, hein, on n'a pas beaucoup parlé ensemble, mais le sommeil a été beaucoup perturbé chez les jeunes. J'ai beaucoup de patients qui, pendant le confinement du printemps, se couchaient à 3 heures du matin, se levaient à 1 heure de l'après-midi. Donc, tout ce décalage de sommeil qui crée toute une autre problématique au niveau de la santé cardiométabolique. Donc, vraiment, on a vraiment intérêt à essayer de trouver une routine pour nos jeunes, favoriser l'activité physique, mais trouver des solutions à tous les niveaux. Et ce, même au-delà de la pandémie. Quand la pandémie sera derrière nous, on a intérêt à continuer à trouver ces solutions-là.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté psychologique? C'est-à-dire qu'on a beau faire des activités, faire tout ça, il reste que la période qu'on vit en ce moment, Madame Anderson, c'est déprimant. C'est déprimant pour les adultes, c'est déprimant pour les jeunes adultes, et c'est déprimant pour les ados, c'est déprimant pour les petits. De se promener dans une ville où tout le monde est masqué, où on ne peut pas voir les grands-parents, on ne peut pas voir nos amis, on peut pas. C'est un poids qui c'est lourd à porter. Comment on fait pour alléger ça pour les jeunes?
Vous avez raison, c'est un poids majeur et les jeunes sont très affectés et on le voit de par les demandes en consultation au niveau symptômes dépressifs, troubles de l'alimentation, toxicomanie. Donc, je pense que on voit vraiment cet impact-là. Et c'est certain que on peut pas tout éliminer les contraintes. On a besoin de nos contraintes imposées par la santé publique afin de sauver des vies et d'éviter que la pandémie prenne le dessus de notre système de santé puis qu'on puisse pas offrir les soins aux patients malades. Donc ça, c'est clair que je remets pas du tout en question ces principes-là. Mais je pense que on peut justement, en contrant le temps d'écran excédentaire, faire une différence parce que c'est démontré que les jeunes qui ont un temps d'écran augmenté à la petite enfance sont plus susceptibles d'avoir de la détresse émotionnelle, des symptômes dépressifs. Donc, je pense que justement, en essayant d'être créatif et en trouvant toutes les options qu'on a énumérées tout à l'heure pour essayer de contrer la sédentarité, on va aider justement sur le plan affectif aussi.
D'accord. Ben merci beaucoup. Ça a été très intéressant, Mélanie Anderson, donc pédiatre spécialiste en santé cardio-métabolique des jeunes au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Ça m'a fait grand plaisir. Je vous remercie beaucoup.
Merci. C'est comme ça que se termine l'émission Sophie Durocher. Ben oui, les émissions, ça y porte notre nom maintenant. C'est plus, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est juste Sophie Durocher. Fait que ça fait bizarre de le présenter comme ça. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je veux remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et on se retrouve demain. Merci beaucoup. Cube Radio.